du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Coq à l'âne en cette nouvelle année 2025. C'est le numéro 760, sommes en direct du Casino Circus de Briançon, avec la grande famille des Coqaliens pratiquement au complet, disons. Et là, je dois dire que ça ne pouvait pas être plus beau cadeau, les amis, que de débuter cette nouvelle année avec pratiquement tout le monde autour de la table. Alors, j'ose espérer que cela fait partie de vos bonnes résolutions pour 2025. Pensez au Coq à l'âne un peu plus et aux vacances un peu moins. Car voyez-vous, nous sommes confrontés ici, au Coq à l'âne, au même problème que dans notre société, à savoir les retraités et l'absentéisme. Des retraités qui non seulement ne branlent rien, mais qui en plus nous coûtent un bras. Bref, j'ai fait mon classement. Pour les trois dernières années, il y a eu 16 émissions briançonnaises et médaille d'or à Philippe Stockley avec 16 participations. Bon, vous allez me dire, c'est un peu normal vu que c'est lui qui décide de la date. Hein.
Il a peut-être que ça à faire.
Ouais. Ensuite, nous avons la médaille d'argent à l'absent du jour, c'est-à-dire Jean-Paul Grolier, 10 participations, ce qui est plutôt pas mal. Médaille de bronze, Yves Honoré, 6 participations. On peut même lui en donner 7 puisque la première, il était invité.
Ah, oui.
Donc ça fait 7. Alors, bien Yves, mais peut mieux faire. Et enfin, dernier de la classe, la médaille en chocolat pour Rémi Souissa avec 4 participations, dont la dernière remonte à 2 ans. Février 2023. Vous êtes le courant d'air de l'émission, Rémi. On parle souvent de vous pour expliquer aux éditeurs que vous avez été retenu. On parle souvent de vous. J'ai rarement connu un coqualien dont on évoquait si souvent le nom et qu'on ne voyait jamais. Vous êtes là sans être là. Vous êtes un petit peu comme le sucre dans le lait chaud. C'est, vous êtes partout et nulle part. Rémi, pourtant, fait de belles performances au Coq à l'âne et notamment à ses débuts. Et puis les vacances, l'oisiveté, la nonchalance ont eu raison de lui. Voilà donc pour l'équipe du jour. Rémi, nous avons Philippe Stockley, bien sûr, et puis Yves Honoré, et puis également notre invité que je salue et à qui je souhaite une merveilleuse année. C'est Gérard Frob qui est avec nous.
Vous aussi, très bonne année.
bonne année, Gérard.
Bonne année à tous.
Et puis, bien sûr, c'est l'heure de Stockley. Hein, c'est l'heure Stockley, c'est comme ça que ça s'appelle, avec un petit édito qu'on pourrait appeler aujourd'hui « Deux points, ouvrez les guillemets ».
Bonjour à tous, j'ai bien dit à tous, parce que je suis content de retrouver autour de cette table Rémi et Yves, qui nous ont abandonnés pendant des mois, tout ça pour cause d'activités soutenues, d'inactifs. Dommage que Jean-Paul n'ait pas pu venir, lui pour cause en ce moment de familles nombreuses, même très nombreuses à la maison. Nous aurions pu enfin reformer la Dream Team, mais ce sera pour la prochaine fois, j'espère. Petite précision logistique, quand je dis que nous sommes autour d'une table, ce n'est pas n'importe quelle table, puisque c'est la table du Blackjack au Casino de Briançon. Et devinez qui est le croupier ?
Ah bah c'est Thierry, c'est lui.
C'est Thierry, notre très estimé patron d'une heure, que nous remercions à chaque fois de braver les éléments. Encore qu'aujourd'hui, ça a été...
Et 1h10 pour venir de Gap. Ah. Je crois que ça fait un siècle que ça ne m'était pas arrivé.
Pour venir à Briançon, nous rappeler qu'on existe. Les jeux sont faits, tout va bien.
Oui. Ah, alors moi, je connaissais une autre expression pour les jeux sont faits, rien ne va plus. C'était les œufs sont frais, hier il a plu. Ça marche aussi.
Et pluie en août, flaque sur la route.
Le niveau est de plus en plus élevé. Tu comprends pourquoi je ne suis pas venu pendant un moment.
Aujourd'hui est un grand jour, nous fêtons un joyeux anniversaire. Le Coq à l'âne de Briançon a 6 ans.
Non. Oh, 6 ans.
Bravo. Alors, un genou, un Briançon, parce que le Briançonnais, par rapport à son grand frère de Gap,
ah oui.
Je te le concède Thierry, mais ne perdons pas une occasion de souffler des bougies. Et pour célébrer en beauté cet anniversaire, nous accueillons aujourd'hui un fidèle invité de l'émission. Le fidèle des fidèles, celui qui est sur la plus haute marche du podium devant Nicolas Busca et Freddy Voiron. Je parle bien sûr de Gérard Frob. Gérard Frob, fidèle des fidèles, jugez plutôt cet illustre historique. Alors, il est invité le 17 février 2019. À l'époque, Gérard était maire de Briançon. J'évoquais dans le traditionnel édito son positionnement et son objectif politique. Deux points, ouvrez les guillemets. Juste envie de faire avancer les choses, quitte à faire grogner les extrêmes. Mais les extrêmes, finalement, c'est fait pour y rester et c'est fait pour grogner. Voilà une analyse politique qui peut sembler un peu guindée, mais à force d'expérience, on prend ses distances, on va plutôt vers ceux qui aident à avancer. On en reparlera, Gérard. Invité le 5 novembre 2019, toujours maire de Briançon, et nous étions encore sur le positionnement politique. Deux points, ouvrez les guillemets. Qu'importe les apparences, l'important, c'est ce que l'on reste le soir à la maison, tranquille, loin des détracteurs, des méchants ou des frustrés. Je t'imagine, Gérard, un soir d'automne, après un conseil municipal, devant ta cheminée, avec ta verveine, en souriant content du travail accompli. Alors j'ai mis verveine, j'ai pensé à autre chose, mais j'ai mis verveine. Invité le 1er octobre 2020, battu aux élections covidiennes le 28 juin de la même année, mais toujours conseiller départemental. Deux points, ouvrez les guillemets. Jusqu'en 2021, encore quelques séances en face de Jean-Marie, à côté d'Aurélie, et pas assez loin d'Arnaud. Et puis ce sera la retraite intégrale, enfin c'est ce que j'imagine, et peut-être aussi ce que je te souhaite. Invité ensuite le 17 novembre 2021, ça y est, terminé les mandats électoraux après la retraite professionnelle, la retraite politique. On présente désormais Gérard comme ancien maire de Briançon, mais aussi comme un invité toujours bienveillant et fin connaisseur du microcosme local. Le voilà donc passé du statut d'élu de la deuxième ville des Hautes-Alpes à celui de consultant expérimenté. De point ouvrir les guillemets, nous allons profiter du regard de Gérard sur l'actualité, un regard qui sera sûrement parfois indulgent, parfois piquant. À ce propos, nous avons une petite préférence pour le piquant.
Piquant, ça ne m'étonne pas.
Enfin, invité le 16 juin 2022, entre les deux tours des législatives après la réélection d'Emmanuel Macron, ce jour-là, Gérard est venu avec comme expert local. Deux points ouvrir les guillemets. Gérard, toi qui as vécu tant de combats politiques avec des adversaires parfois redoutables, parfois insolites, explique-nous, dis-nous tout sur la particularité de l'électorat briançonnais. Et là, on sent qu'on a affaire à un personnage bien établi, la sagesse et le recul incarné, comme on dit au Coq-à-l'âne, un bon client. Et nous voilà, début 2025, pas ou peu d'élections en vue. Nous allons pouvoir discuter tranquillement de l'ambiance politique locale et nationale avec, pour ma part, plus de choses qui agacent que de choses qui réjouissent. Je reprends à nouveau cette phrase d'un édito du Coq-à-l'âne qui date de 6 ans, de bois ouvrir les guillemets. Juste envie de faire avancer les choses, quitte à faire grogner les extrêmes. Mais les extrêmes, finalement, c'est fait pour y rester et c'est fait pour grogner. Tout cela est tellement vrai. Tout ça n'a pas changé après 6 ans. Même si les grognements de certains sont de plus en plus bruyants et de plus en plus vulgaires, de plus en plus orientés. Gérard, il faudra que tu nous donnes ton avis sur cette mutation d'une représentation parlementaire qui est passée d'une apparente compétence, le tout dans un respect de l'institution, à un chahut irresponsable qui fait vite penser à de l'incompétence. J'ai souvent parlé aussi ici de ton statut, que dis-je, ta stature d'homme de gauche, et puis je pense à ce que cela signifie aujourd'hui d'être de gauche. Plus grand chose à mon sens, tant le positionnement de certains dits de gauche est devenu électoraliste, extrémiste, malsain, autant dans le discours que dans les apparences. Ou alors, et c'est peut-être plus grave, effacé, sans réaction devant l'excès ou l'embrigadement. En clair, pourquoi la gauche historique s'efface devant la nouvelle gauche belliqueuse ? Nous avons souvent aussi évoqué le sujet de la discrétion de l'ancienne réelle gauche, plus clairement le Parti Socialiste, une gauche qui aurait pu être l'héritage de Pierre Mauroy ou de Robert Badinter, un héritage qui semble bien dilapidé et oublié, et il est bien loin le courage politique des anciens, enterré au Panthéon peut-être. Aujourd'hui, le courage politique s'est transformé en un calcul prudent ou en une prudence calculée, c'est comme vous voudrez. Et au milieu de tout ça, nous avons même un ancien président de la République qui censure et qui regarde ses chaussures et son téléphone pendant qu'on vocifère et qu'on sort des drapeaux du côté de LFI. Gérard, tu nous diras ton sentiment sur tout ça, tes déceptions et tes satisfactions, et peut-être aussi tes espoirs.
Très bien. Pas grand-chose à ajouter. Hein.
Bah oui, si, quand même.
Ah, si.
C'est bien, c'est bien analysé.
Alors, bien vu. Alors cette fameuse gauche qui est partie au Panthéon, visiblement.
Bah, la fameuse gauche, elle n'existe plus.
Oui.
Voilà.
Mais ça date pas d'aujourd'hui, Gérard.
Ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est de plus en plus prégnant aujourd'hui. De plus en plus prégnant qu'on en aurait besoin et qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là et aujourd'hui, on assiste malheureusement à des prises de position pour durer, pour être élu. Pas pour faire avancer les choses, pas pour aider ceux qui sont dans la difficulté, pas pour améliorer le système. Aujourd'hui, on est dans des postures dramatiques. Si vous avez eu le temps hier de regarder le débat à la télévision, c'est dramatique. C'est une vulgarité inadmissible pour certains. Tu l'as dit et je partage. Et aujourd'hui, avoir ce type de comportement, quand on connaît les difficultés de notre pays et du monde en général, avoir ce type de comportement hier, personnellement, j'avais honte pour eux.
Est-ce que tu te sens encore aujourd'hui du PS ou pas ?
Je me sens toujours socialiste,
oui,
en tout cas.
Du socialiste, oui, mais du PS, non. Voilà.
Je le précise, socialiste, oui, et je le reste et je le resterai. Ça veut dire que la solidarité, pour moi, ce n'est pas un vain mot. Mmh. C'est une réalité. D'ailleurs, depuis que je ne suis plus élu, il y a une chose que je fais au moins une fois par semaine, c'est une journée au Secours populaire. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin de l'aide de ceux qui sont dans
une situation qui leur permet effectivement d'aller voir les autres.
Tu avais, je pense, mis de côté quelques questions pour Gérard ?
Sur ce que je disais sur la fin, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le comportement d'un ancien président de la République. C'est un ancien président de la République.
On parle de
François
Hollande.
Qui hier a eu un comportement inadmissible, en train de jouer avec sa petite calculette, en train de discuter avec ses voisins, ses voisines. Je veux dire, qu'est-ce que ça signifie ? Il a une figure, cet homme ?
Exactement.
Il a une figure.
On est aujourd'hui jeudi 16, c'est ça ?
Oui.
Que je dise pas de bêtises. Et aujourd'hui, on va discuter évidemment du budget. Ça va être voté ou il va y avoir... il y a une motion de censure qui va être déposée. Elle ne sera certainement pas votée puisque le RN ne va pas s'aligner sur celle-ci. Mais la question qui se pose, c'est quelle va être la réaction des députés PS aujourd'hui et peut-être François Hollande. Parce que si on regarde bien François Hollande, il a été soutenu au moment de sa candidature par un certain François Bayrou. Il a aujourd'hui un de ses anciens premiers ministres qui fait partie du gouvernement Bayrou, à savoir notre ami
Valls.
Manu. Voilà. Et il y a un de ses amis aussi de longue date, Rebsamen, qui est là. Est-ce que tu peux imaginer que François Hollande puisse voter contre ?
On peut tout imaginer,
venant de ce monsieur.
Là, il y a un éventail possible. Quand il n'y a plus de front, quand il n'y a plus d'idéologie, quand la seule idéologie, c'est d'être là, et puis éventuellement de toucher du pognon, moi, il y a certains élus du département... J'ai honte en les voyant. J'aimerais aujourd'hui que certains s'expliquent. On a quand même un président du conseil départemental qui traîne derrière lui un certain nombre de problématiques. Il n'est pas encore jugé. Mais il y a 4 ans, la Chambre régionale des comptes l'avait déjà accroché pour des faits similaires. Où est-on là ? Où sont les gens qui souffrent ? Où sont-ils pris en compte ? Où sont aujourd'hui les dynamiques administratives et les dynamiques commerciales et industrielles de notre département, je m'interroge. Là, aujourd'hui, on est en train de se battre sur un éventuel Jeux Olympiques sans nous dire combien ça va coûter. En plus, ces fameux Jeux Olympiques, on nous dit qu'ils auront lieu pendant les vacances de février, à une période où il n'y a pas de place. Tout est plein à ras-bord, alors qu'au mois de janvier, il n'y a personne. Pourquoi on ne les fait pas au mois de janvier ? Parce que il y a des gens qui vous imposent des positions. Je saisis très mal tout ça et on va à volo actuellement. Moi, j'ai peur. J'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. J'ai une expérience professionnelle et une expérience politique qui existe depuis un bon moment. Mais j'avoue franchement que j'ai peur pour nos descendants.
Juste sur les politiques locales, il y a hier Valérie Rossi qui a posté sur son Facebook toute une argumentation pour dire que maintenant ça suffit, il faut arrêter les bêtises et qu'elle n'était pas pour la censure du tout. Mmh. Alors elle ne l'a pas exprimé exactement comme ça, mais en tout cas elle a dit il faut que ça s'arrête parce que ça fait...
Donc elle a changé de position par rapport à un mois en arrière.
Il n'y a pas longtemps.
Et c'est plutôt bien, c'est plutôt réconfortant.
Arrive un moment, il faut essayer de se dire que ça serait bien de travailler ensemble.
Exactement.
Parce que aujourd'hui on n'a plus de majorité absolue, donc à partir de là, il faut travailler ensemble.
Et puis il y a un truc que moi j'avais retenu sur l'argumentation que Gérard a développée, c'est-à-dire... Les politiques cherchent leurs propres bénéfices et leur argent, finalement, pour qui va tomber tous les mois. Mm-hmm. C'est quand il y a eu la première tentative de censure, qui a d'ailleurs réussi après, mais en tout cas pour ne pas faire la censure, Macron a dit « Vous inquiétez pas, je ne fais pas de dissolution pendant 30 mois, donc vous êtes assuré de garder votre sous. » Non mais c'est... donc vous êtes assuré, c'est moi qui le dis. Mais quelque part, ça voulait dire ça. C'est vous êtes tranquillisé sur l'argent que vous allez toucher.
Oui, vous garderez votre poste encore.
Ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Enfin, je ne sais pas, vous avez entendu ça.
Rémi.
Le corollaire de tout ça, c'est que ça fait le lit des extrêmes. Parce qu'ils se gargarisent comme l'extrême droite qui dit « Vous ne nous avez pas essayé, nous on va être différents. » différents de ce qu'on a décrit comme des comportements vénaux, horribles, méprisants vis-à-vis des gens qui souffrent, etc. Pourquoi pas ? Le populisme gagne du terrain, avoir des attitudes comme ça, de gens qu'on va qualifier de purement républicains, qu'ils soient de gauche, du centre ou même de droite, les autres se régalent. Hein. C'est ça. Hein,
Gérard.
Et on le voit au niveau mondial, d'ailleurs.
Il va falloir faire des économies, on le sait. Il va falloir toucher à des budgets. Le problème, c'est qu'on sait que au niveau de la santé, on ne va pas pouvoir toucher au budget santé. On ne va pas pouvoir toucher au budget de l'éducation nationale, par exemple. Enfin, il y a les militaires, on ne va pas trancher non plus dans leur budget. Résultat des courses, on se rend compte que c'est difficile aujourd'hui de trouver les sous. Toi qui as été aux affaires, au niveau du département, mais surtout au niveau de ta ville, où tu as eu aussi des problèmes d'argent parce qu'il y avait une grosse dette. Et que faire, comment faire pour réussir à faire des économies ?
On en a fait des économies. Moi, pendant les 10 ans de mon mandat, j'ai remboursé 25 millions.
Et donc, t'allais les chercher où ?
Eh bien, dans les économies de comportement, éviter de faire de la dépense pour de la dépense, de faire du falbala. Un exemple, on a fait un mur d'escalade pour pouvoir attirer les gens qui font des compétitions intéressantes. Aujourd'hui, on se rend compte, que parce que le mur, soi-disant, n'était pas construit pour 450 000 euros, n'était pas suffisamment intéressant, on a construit un autre d'1,8 million. Tout ça pour garder les Jeux à Briançon.
Tu parles du Mondial.
Le Mondial d'escalade.
Oui. Et ils partent.
Ils sont partis à Madrid.
Ils partent.
Non, à Chamonix.
Non, la date est à Madrid, je crois.
On ne sait pas encore, mais de toute façon, ils ne seront plus à Briançon.
Bon, en tout cas, ils ne seront pas ici.
Ça a toujours existé.
Ils ne seront plus à Briançon. Ouais, alors que moi, j'avais négocié quand même avec la fédération, qui reste pendant un certain temps, à partir du moment où on répondait à leur demande, à savoir de construire un mur d'escalade qui permettait toute l'année d'avoir des prestations. Les 450 000 qui ont permis de construire le premier mur, à la poubelle, terminé, 450 000 de dépenser pour rien, et ainsi de suite. On peut faire des choses, mais il faut aussi que ces choses, elles servent à quelque chose. Et la pérennité, aujourd'hui, des Jeux d'été de l'escalade, c'est terminé. Le Mondial d'escalade, c'est fini.
Moi, je voudrais quand même faire un commentaire, parce que tu parles d'augmenter les budgets ou de ne pas les diminuer, etc. Moi, j'ai quand même un souci de compréhension du déficit de la France et du problème des budgets. On est prélevé à 53,7%, on est juste derrière le Danemark. On est une des grandes puissances du monde. On a une capacité à lever l'impôt comme personne. Mmh. En France, on lève très bien l'impôt. Donc, on a une masse d'argent disponible quand même conséquente. Et tout ce qui est régalien, dont l'État s'occupe, c'est en décrépitude. La justice, la santé, l'école, les pénitenciers, la police, l'armée. Le problème, moi, vu de mon point de vue, c'est pas la somme d'argent, c'est l'utilisation de l'argent. Et pour arriver à changer l'utilisation, et comme disait Gérard, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut vouloir réformer l'hôpital, l'école, vouloir réformer et mettre en place des gens qui vont mouiller le maillot au risque de se faire détester pour aller battre la campagne. Et voilà. Et on en est là, c'est-à-dire qu'on est incapable de réformer. On le voit bien avec l'école et la santé. On a eu X ministres. Chacun a une idée absolument géniale, mais elle n'est pas appliquée. Et en tout cas, elle n'est pas dans le sens où, moi, je dirais au ministre, faites mieux avec moi.
Oui,
bien sûr. Il y a du boulot.
Bien sûr.
Mais l'argent est là. Il ne faut pas nous gonfler avec l'augmentation des budgets. L'argent est là et même pléthorique.
On peut prendre l'exemple.
Et même pléthorique.
Oui, mais on peut prendre l'exemple de l'éducation nationale. L'éducation nationale où on manque de profs. Il y a beaucoup plus de personnes dans les bureaux, dans l'administratif.
J'allais te dire. Au rectorat,
Et c'est peut-être là où, effectivement, il faut revoir certaines choses.
Ça s'appelle de la réforme.
Oui, mais
or,
oui, mais
les gouvernements successifs,
personne,
de droite, de gauche,
personne
de cohabitation,
ne veut réformer.
Etc.
Tout le monde a peur.
Ou alors tout le monde est assis sur un petit confort.
Manque de courage. Aujourd'hui, il y a des décisions à prendre.
Voilà.
Il y a des décisions importantes à prendre. Et c'est des décisions qui vont faire mal. Mais si on ne les prend pas, ça fera encore plus mal.
Voilà.
Aujourd'hui, par exemple, j'écoutais un autre débat. On dit aujourd'hui, la retraite, est-ce que vous voulez la retraite à 64 ans ou pas? Tout le monde lève la main en disant... Ou pas.
Ou pas.
Ben oui.
Bah, oui, enfin.
Mais la vraie question, c'est pas est-ce que vous voulez la retraite à 64 ans, c'est est-ce qu'on aura les moyens de payer la retraite
votre
à
retraite.
62 ans. Est-ce qu'on aura les moyens de maintenir la sécurité sociale au niveau où elle est dans ses performances, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des aides sociales qui sont remarquables. Aujourd'hui, on a la possibilité de prendre des décisions fortes à condition d'être courageux et pas de penser à sa réélection.
Ah oui, non, mais on est toujours dans le même problème.
Mais oui, mais c'est bien ça le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont élus, non pas derrière des profils idéologiques ou des projets politiques, mais qui sont derrière leur propre vision et leur propre intérêt personnel. Et c'est ça que je regrette profondément.
Tu avais eu en 2014 une idée pour gagner des sous. Je vais te rappeler. Non, mais tu veux, t'inquiète pas. T'inquiète. Non, mais là, c'était proche de l'aumône quand même.
Ah bon ?
Ah oui, oui. Tu avais demandé carrément de l'argent à François Hollande. Je ne sais pas si tu te souviens. Écoute.
J'ai écrit au président de la République pour lui demander de nous aider à restaurer la place Blanchard, puisque, comme vous le savez, il y a quelques mois en arrière, une partie de la place Blanchard s'est effondrée au passage de voitures, d'ailleurs de voitures qui étaient en stationnement. La réparation, c'est 1,2 million environ. L'assurance rembourse 90 000 euros. Mais aujourd'hui, donc 1,2 million, on est dans le patrimoine classé à l'UNESCO. On dépense depuis maintenant 4 ans 1,5 million par an. Alors bien sûr aidé par la DRAC, par la région, par le département, mais il n'empêche. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui la ville de Briançon ne peut pas faire. Or si on ne fait rien, les remparts risquent de s'écrouler. C'est-à-dire c'est pas seulement le sol qui part, mais c'est une partie des remparts qui risque de se retrouver à la...
Voilà, c'était le 17 décembre 2014, tu avais écrit à François. Est-ce qu'il t'avait envoyé un petit chèque, voilà.
Alors, on a eu quand même beaucoup d'aide dans le cadre de la vieille ville et d'efforts. Il faut bien savoir que les 25 millions qu'en 10 ans on a mobilisés au niveau de la commune pour la réparation et l'entretien du Fort des Têtes, dont je rappelle qu'il appartient toujours à la ville de Briançon, contrairement à ce que certains pensent. Et ce travail qui a été fait d'aller chercher des subventions a fonctionné. Donc, au niveau du patrimoine de Briançon, on a été aidé à hauteur de ce qui était prévu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on pourrait l'être plus.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non mais voilà, j'avais envie de te te souvenir de ce petit passage-là. On va parler encore argent, si vous le voulez bien, avec les infrastructures dans les Hautes-Alpes. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il y a Marcel Cannat, le vice-président en charge des infrastructures routières, qui l'appelait de ses voeux en septembre sur, justement notre antenne, sur Alpe 1. Le tablier du pont de Savry, enfin de l'ouvrage, devra être refait dans les années à venir. Des travaux qui vont entraîner, évidemment, vous imaginez, des coupures de circulation pendant au moins 18 mois, selon lui, et qui vont largement handicaper le trafic dans notre département. Le pont de Savry, vous le savez, il relie donc la partie ouest du lac à la partie est, à Chorges et Embrun. Alors, plutôt que de refaire un tablier, il dit qu'il faut étudier immédiatement la possibilité d'un autre pont, mais le maire de Savines de son côté, donc Victor Berenguel, craint pour l'impact économique de sa commune. Je vous propose de l'écouter.
Si le pont ne s'est pas fait un peu plus en amont, c'est que vous avez d'énormes glissements de terrain. J'en veux pour preuve qu'il y a toute une zone sur l'Embrunet où il y a eu des glissements de terrain, avec d'ailleurs des habitations qui ont été déplacées, etc., etc. Et puis, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que si d'aventure ce nouveau pont devait voir le jour, ça serait dramatique économiquement parlant pour la commune.
Et oui, parce qu'on rappelle que le pont de Savines-le-Lac entre directement dans Savines-le-Lac.
Voilà, c'est la seule commune qui a vraiment les pieds dans l'eau. Et je pense qu'économiquement parlant, cela ne serait pas une bonne chose. C'est pour ça que je demande à tout le monde de ne pas s'enthousiasmer en disant qu'il faut faire autre chose.
Ouais. Alors, un nouveau pont, on retape l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça coûte cher, un pont.
Moi, j'en pense rien du tout à présent, parce que je n'ai pas les éléments de jugement sur la solidité du pont, sur sa pérennité.
Mais tu imagines quand même les travaux à faire sur le pont T'imagines le bazar que ça créerait dans...
Est-ce qu'il y a urgence ou pas? Moi, là, comme ça, débattre ce genre de choses sans les outils qui permettent d'apprécier la faisabilité d'une part, le coût d'autre part et tout ce qui va avec.
C'est difficile.
C'est du n'importe quoi.
Alors, il y a eu une émission à la télé, je crois, sur les ponts qu'il fallait rénover.
Ouais, il y en a un paquet en France.
Voilà, il y en a un paquet. Il y en a même qui continuent à être utilisés alors qu'il y a des directives comme quoi ça devrait être arrêté. Mm-hmm. Mais pour rebondir deux secondes sur une histoire de Savine, tu parlais de Berengel qui dit qu'il y a un aspect économique pour sa commune, mais il ne se place pas du côté aussi des touristes, parce que les touristes qui font la queue dans sa commune, voiture contre voiture pendant des heures, quelle image on donne aussi du service qu'on apporte aux gens qui nous apportent de l'argent. Donc je pense que il y a des communes qui ont eu des comme Embrun qui s'en sortent pas si mal économique. Et pourtant
il y a eu la rocade qui nous a bien aidé.
Il y a une rocade. Donc je pense qu'il faudrait aussi creuser un peu plus, comme le dit Gérard, avoir des chiffres et des anticipations sur les habitudes de consommation. Parce que honnêtement, moi je connais quand même Savine, il y a des bouchons phénoménaux.
Ah bah oui, on le sait bien. On le sait bien.
Enfin, dimanche soir, je suis rentré d'Aix vers 19h.
Et ça roulait bien.
Je suis jamais pris dans les bouchons parce qu'on sait les horaires, donc je remontais. Donc j'ai croisé les gens vers qui descendaient du ski.
Ouais.
D'un week-end, on ne peut plus calme. Hein,
et pourtant, il y avait du monde parce que j'étais aussi sur la route à ce moment-là.
De l'aéroport à l'embranchement de la route, là où il y a le marché paysan, etc.
Oui.
Ininterrompu.
Bien sûr.
Et ça, il était 19h30.
Et des deux côtés.
Dans le sens de la montée, ça allait.
Non, je veux dire des deux côtés. Ceux qui venaient de Talar.
On voyait les phares jusqu'à Gap, là-haut.
Ceux qui venaient de l'axe Barcelonnette.
Donc, si tu veux... le pont, c'est un truc, mais qu'est-ce qu'on fait depuis... Ça doit exister depuis 40 ans.
Tu as vu qu'à la Solse, il y a des travaux. Il y a des travaux qui sont faits.
Je ne sais pas ce
qu'ils font. Eh bien, justement, pour éviter, je pense, l'engorgement de manière...
À mon avis, c'est pour éviter le feu rouge et pour que les gens y passent direct.
J'espère.
Je pense que ça a été travaillé pour...
Je pense que l'attitude de Victor Berengel n'est pas juste dans cette affaire. Je te rejoins.
Oui, bien sûr.
Il pense à sa ville aussi, Victor.
Mais il a tort.
Peut-être que la ville ne va rien craindre, en fait.
Absolument, comme ça s'est passé dans les différentes déviations.
Elle va être plus attractive.
Dans les Hautes-Alpes.
Bien sûr.
Elle va être plus attractive. Aujourd'hui, tu fais que passer.
Quel est l'intérêt aujourd'hui pour la ville de voir ce flot de voitures les unes derrière les autres? Alors qu'effectivement, il y a des aménagements qui pourraient être bien meilleurs et qui pourraient permettre effectivement aux touristes d'avoir envie de rester.